Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai mon avis là-dessus, mais j'ai, c'est pas ce qui m'intéresse.
Tout le monde a été important, et même ceux qui n'ont pas joué, parce que en fait, je pense souvent à ceux qui n'ont pas joué qui font la différence.
Zizou. Merci Zizou.
Des joueurs vraiment qui arrivent à se complémentariser tous ensemble.
Zidane, c'est quoi Zidane?
Laisse,
c'est un bidon.
Parler.
T'es au courant, Zidane, c'est un bidon. C'est mon avis. C'est mon avis, Zidane, c'est un bidon. J'ai le droit de l'exprimer.
Je vous embrasse à tous.
RMC, l'afterfoot.
Karine Galli.
Bonsoir à tous, 22h, vous êtes en direct sur RMC, l'afterfoot démarre pour 2 heures de bonheur. On vous attend évidemment au 32-16 sur RMC, sur le WhatsApp RMC 06-12-424-424 au programme. Le stade de Zinedine Zidane. Et oui, la surprise, on a un jeudi 13 août, tranquillou, où les gens sont encore en vacances. Et là, boum, 22 noms donnés aujourd'hui. Un communiqué de presse de la Fédération Française de Football qui nous officialise le staff de ZZ. On va en parler évidemment, et notamment des revenants. Génération 98 toujours au sommet avec Barthez qui rejoint le staff des Bleus. On va en parler avec notamment notre invité Alex Plumet qui est l'un des derniers à avoir interviewé le champion du monde, champion d'Europe et ancien coéquipier évidemment de Zidane. On parlera également des propos d'Emery. Gvara, ballon d'or, pour lui ça ne fait aucun doute. Est-ce que vous pensez que le Géorgien peut avoir le ballon d'or une année de Coupe du Monde où, vous le savez, la Géorgie n'était pas qualifiée? Et puis évidemment toutes les informations Mercato, ils sont là en pleine forme. Elton Mokolo, bonsoir.
Bonsoir Karine, bonsoir à tous.
Et Maxime Chano à ma droite. Bonsoir Maxime.
Salut à tous.
Messieurs, on va donc parler de cette information. Voilà, un petit jeudi 13 août tranquillou, il ne se passe rien. Et puis finalement, la Fédération Française de Football nous fait un joli cadeau parce qu'on apprend donc comment va être confectionné le staff de Zinedine Zidane. On avait déjà évidemment beaucoup de noms, mais là, il y en a 22 qui ont été officialisés. Il y aura encore même des noms qui seront officialisés au mois de septembre. Donc le staff n'est pas complètement bouclé. On rappelle évidemment que Zidane est attendu pour sa première liste, ça sera les joueurs au mois de septembre. Il y aura 4 matchs au mois de septembre, son aventure va débuter en Turquie, après il y aura la Belgique et enfin il y aura ses retrouvailles avec le public français, France-Italie qui est d'ores et déjà à guichet fermé messieurs, donc c'est dire si évidemment il y a beaucoup d'attentes de la part du public français, ils ont hâte de voir également cette aventure entre les Bleus et Zinedine Zidane. Vous êtes sur RMC et on va accueillir tout de suite notre cher Arthur Perrault, il est partout. Hier soir, il travaillait évidemment à Salzbourg pour la finale de la Supercoupe et aujourd'hui, il a dû travailler sur cette annonce avec le nouveau staff de Zinedine Zidane et il va nous dévoiler évidemment toutes les coulisses de ce staff. Salut Arthur.
Salut Karine, bonsoir à toutes et à
tous. Arthur.
Salut Arthur.
Arthur, on salut savait messieurs. Évidemment que le staff de Zinedine Zidane serait beaucoup plus large que celui de Didier Deschamps. On a eu la confirmation et on peut découvrir un papier de toi et de Valentin sur RMC Sport. On voit qu'il y a évidemment aussi des anciens, des fidèles du côté de Zinedine Zidane. C'était attendu, c'est confirmé.
Oui, c'est vrai que c'était une très grande tendance hein, depuis plusieurs longs mois où on sait que Zinedine Zidane a pris le temps de préparer en coulisses son staff pour prendre la tête de cette équipe de France. Alors évidemment qu'il y a d'abord l'allié de toujours de Zidane, David Bettoni, qu'il connaît depuis l'AS Cannes il y a une quarantaine d'années. Il est bien là en tant qu'adjoint, premier adjoint, c'est un rôle évidemment très important et donc les deux hommes vont se retrouver. Il y en a un autre aussi qui est présent, qui était déjà présent à ses côtés au Real Madrid, c'est Hamidou Msaïdi qui sera lui assistant coach, mais qui aura vraiment plusieurs casquettes dans le staff de Zidane. C'est un homme de confiance, lui aussi, une petite main qui n'hésite pas à prendre le temps d'aller parler avec les joueurs un par un au quotidien. Et il y en a un autre, c'est Grégory Dupont que l'on connaît aussi un peu par le passé en équipe de France puisqu'il a été en charge de la préparation physique des Bleus lors de la Coupe du Monde 2018. Qu'il avait retrouvé un autre poste entre-temps du côté du Red Star. D'ailleurs, il va garder cette fonction du côté du club francilien. Et lui, il endossera le rôle de conseiller stratégie et performance. Voilà donc pour le cercle très rapproché. Et il y a évidemment un autre nom que l'on attendait avec beaucoup d'impatience. Là aussi, c'était une tendance et donc elle a été officialisée dans ce communiqué de la Fédération Française de Football. Eh bien, c'est Fabien Barthez qui sera lui l'entraîneur des gardiens de but. L'information qu'on peut vous donner, et c'est assez est important, c'est que il est donc prêt à exercer ce poste puisqu'il est en train de passer son diplôme de formateur, le BEF, du côté de la Fédération Française de Football. Sa formation est en cours, mais le fait qu'elle soit en cours, le code du sport l'autorise à exercer cette fonction d'entraîneur des gardiens en étant rémunéré. Et donc voilà, c'est aussi une tête d'affiche de ce staff annoncé par la Fédération Française de Football. On pourra parler ensuite, Karine, de différents autres noms qui sont présents, évidemment à connotation marseillaise. Je pense aux médecins, notamment Hervé Collado. Je pense aussi au podologue Marc Rétali. Voilà, tous issus proches de Marseille et qui sont donc au sens large des fidèles de Zinedine Zidane.
Alors tu l'as dit, Fabien Barthez, on en reparlera évidemment en détail. Il est dans les clous pour intégrer le staff parce qu'il y avait évidemment beaucoup de questions, parce que pour l'instant il n'a pas son BEF, mais il est en train de le passer et c'est une formation qui est reconnue comme une licence A par l'UFA, donc pas de souci. Tu nous as parlé de ce staff élargi et il y a aussi plusieurs anciens de 98. Il y a Barthez, mais pas que. On retrouve des anciens visages déjà présent quand Zidane était joueur.
Oui, alors on peut citer aussi, et ça a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, parce que beaucoup s'amusent du jeu de mots, notamment Stéphane Planck, qui va se retrouver observateur. C'est un rôle très important. Alors Didier Deschamps y accordait un petit peu d'importance, et d'ailleurs les observateurs des Bleus avaient un travail encore plus important lors de la dernière Coupe du Monde. Là c'est Stéphane Planck qui va le récupérer. Pour le reste, on a donc Hervé Collado du côté de la cellule médicale. On peut penser à Philippe Boixel, qui est un ostéopathe, qui là aussi est très très proche de Zinedine Zidane, qui le suit depuis très très longtemps. Voilà, on le résume très souvent à ses mains magiques et qui donc aura un travail très très précieux au quotidien du côté de l'équipe de France. Et ce qu'on peut aussi dire, c'est que il y a quand même quelques rescapés entre guillemets du staff de Didier Deschamps. Je pense notamment à l'analyste vidéo adjoint Clément Hibert, qui était déjà présent, qui était numéro 3 mais qui est annoncé dans le staff de Zinedine Zidane. Et aussi, c'est un petit peu une surprise, Mohamed Sanadji, qui était l'officier de liaison, l'homme sécurité de Didier Deschamps, il va récupérer le statut de logistique sécurité. Voilà, on sait que c'est un homme qui est très très proche des joueurs au quotidien, qui a la confiance de nombreux joueurs cadres de l'équipe de France, et notamment le capitaine Kylian Mbappé. Lui est bien présent dans ce staff annoncé.
Et on rappelle que Zidane aussi était proche de lui, qui voulait qu'il reste dans son staff, oui, et donc évidemment, il a eu gain de cause. Dans les anciens qui étaient présents quand Zidane était joueur, il y a également le cuisinier qui est une vieille connaissance de
ça,
Zinedine Zidane.
C'est très important.
Ouais. Oui, alors Elton trouve que c'est un choix exceptionnel. Elton
dit, non mais c'est un vrai choix.
Bah oui.
Vous rigolez ? Non mais vous rigolez.
Non, c'est pas
Explique-nous. Parce que Xavier Rousseau, qui était jusque-là le chef cuisinier de l'équipe de France, était vraiment quelqu'un de très apprécié, parce que il proposait des ateliers un peu différents lors des petits déjeuners et des déjeuners notamment de l'équipe de France. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Bleus adorent l'atelier pâtes. Alors ça va vous faire rire, mais c'est vraiment un atelier très apprécié.
Tout le monde aime les pâtes, c'est normal.
Ah, non, mais c'est vraiment un atelier très très apprécié. Et donc Roberto Falvo, qui était déjà présent aux côtés de Zidane à Turin, du côté de la Juventus, qui a monté son restaurant du côté du Cap d'Agde et qui donc voilà va devenir le chef cuisinier de l'équipe de France.
C'est beau,
pour la petite histoire, il a horreur des pâtes qui sont trop cuites, donc voilà, ça veut dire que l'atelier pâtes va être réussi.
Non, mais on s'est même pas concerté, parce que en off je disais à Karine que il y a des matchs qui se décident notamment grâce à la qualité des pâtes.
Mais
j'étais
caché. Qui n'aime pas aujourd'hui, honnêtement.
Non, mais Maxime, toi, t'as été de ce côté-là. La préparation, la qualité des pâtes, ça a une influence.
C'est très important, ouais. Ah, oui. C'est vrai. Tu sais qu'on s'est fait empoisonner, nous, une fois en équipe nationale, en Biélorussie.
C'est-à-dire?
Ouais. Eh ben, écoute, on n'avait pas ramené notre cuisinier. Je me rappelle plus quelle était la raison. Problème de visa, sûrement. Et il s'est avéré qu'on a mangé des pâtes à la bolognaise. Et le lendemain, on a dû décaler le match parce que tout le monde était malade.
Ah.
Et ouais.
Voilà.
Et pourquoi tu t'es empoisonné, du coup?
Ben, quand t'as une vingtaine de joueurs qui se pleine de crampes, j'imagine que...
Il y avait un souci dans la sauce, minimum.
La sauce, ouais, c'est
oui,
ça,
a priori.
C'était pas un match important de qualification, enfin importante au niveau du Luxembourg, évidemment.
Ouais. Et ben, en tout cas, avec Roberto Falvo, il ne se passera rien de tout ça, parce qu'évidemment, nos joueurs de l'équipe de France seront chouchoutés et mangeront donc des excellentes pâtes. On rappelle qu'il avait intégré également le staff des Bleus à partir de 98 et pendant 8 ans. Et c'est les années aussi où l'équipe de France gagnait, 98-2000. Donc voilà, il y a plein de signaux très positifs.
Mmh. Et juste un dernier truc, parce que c'est aussi quelque chose qui monte énormément sur les réseaux sociaux, et c'est des échos qu'on avait pu avoir. C'était rien d'officiel évidemment, mais c'était sur la volonté de Zidane d'avoir une forte féminisation de ce staff. On regarde la liste aujourd'hui, il faut le dire Karine, hein, évidemment il y a uniquement des profils féminins sur les 22 noms annoncés par
masculin, la Fédération française masculin.
De football. Excuse-moi, justement. Ce que l'on peut vous dire, c'est que il est possible, et c'est vraiment la tendance, c'est ce qu'on entend depuis le début, qu'il y ait une cellule data très développée et très importante. Et c'est une volonté de Zinedine Zidane, mais que cette cellule data soit prestatrice externe. Et donc, cela expliquerait pourquoi elle n'apparaît pas aujourd'hui dans ce communiqué de la Fédération française de football. Et donc, il y aurait, et cela reste à confirmer, mais c'est bien la tendance, des profils féminins dans cette cellule data. Voilà pour ceux qui se posent la question. Et il y a un autre sujet qui reste à régler. Il est important pour nous, journalistes. C'est la personne qui s'occupera des relations médias. Là aussi, il y a une tendance depuis plusieurs mois, c'est à ce que ce soit un profil féminin. Cette tendance existe encore. Elle n'est pas actée. Mais là aussi, ce sera à surveiller. Et donc, il pourrait y avoir une féminisation, je vous le rappelle donc, sur ce rôle d'attaché de presse et sur cette cellule data voulue par Zinedine Zidane.
Oui, parce qu'on rappelle que c'est vrai que pour les journalistes, c'est très important. Arthur, tu as raison de le préciser. Pendant des années, c'était Raphaël Raymond qui avait de très bonnes relations avec les journalistes, qui étaient ouverts. Il va y avoir évidemment une succession, parce que Raphaël Raymond était un très proche de Didier Deschamps, donc évidemment, il ne peut pas garder son poste. Et aujourd'hui, on entend parler de profils qui venaient peut-être de beIN Sport, donc à voir si ça se confirme ou pas. Des profils
un peu partout, oui, voilà. Il y a beaucoup de rumeurs.
Des profils peut-être féminins à ce poste-là.
En tout état de cause, il y a plusieurs informations qui sont quand même très intéressantes. La première information, c'est la longueur du staff.
22 personnes.
22, et moi je trouve que c'est une excellente
nouvelle.
C'est pas terminé, hein. Et c'est pas terminé, ça ne demande qu'à continuer. Et c'est une excellente nouvelle dans un contexte économique qui n'est pas forcément facile pour la fédération. Donc il y a la volonté, notamment d'entourer Zinedine Zidane du meilleur staff possible de manière très élargie. Parce que moi, c'est l'un de mes combats. La fédération et même l'encadrement de l'équipe de France doit être au niveau élite, à l'image notamment de ce que font les plus gros clubs. Et en plus, là, t'as l'opportunité d'accueillir Zinedine Zidane en tant que sélectionneur, faut l'entourer. Ce qui m'amène notamment à la deuxième étape, c'est que là on a le Zinedine Zidane beaucoup plus dans la méthodologie. C'était déjà ce qu'on avait mis en avant du côté du Real Madrid, dans sa capacité à s'entourer et dans sa capacité à installer un cadre extrêmement compétitif avec des hommes de l'ombre, mais qui était vraiment très important. Et c'est comme ça qu'on a eu le Real Madrid des trois Ligues des Champions. Donc l'idée d'un Zinedine Zidane seulement entraîneur parce que c'est Zinedine Zidane, non, derrière, il y a une planification. Et la troisième information, c'est celle, la cellule data et tout, qui m'intéresse notamment parce que ça peut être un enjeu, notamment pour l'innovation du côté de l'équipe de France.
Ouais, non, mais tu l'as dit, Elton, hein, de toute façon, c'est important toujours d'être très bien entouré. Et Zidane l'a prouvé par le passé, notamment au Real Madrid. Moi, je trouve ça intéressant de ramener Bettoni. Hein. Bettoni, c'est un petit peu le Guy Stéphane, hein, finalement, de Didier Deschamps. Ouais. Hein, c'est vraiment son lieutenant fidèle. C'est vrai que de voir aussi Fabien Barthez revenir, mais pour tous les nostalgiques de France 98, bien évidemment, ça nous fait à tous quelque chose. Alors après avoir en tant qu'entraîneur ce que ça va donner, lui qui a quand même été inactif. Alors je sais pas si on peut parler d'inactivité, mais en tout cas,
on va en parler avec Alexandre Plumet dans quelques minutes.
Un petit peu en dehors du football professionnel depuis quelques années, et notamment, il me semble, sa dernière pige à Toulouse, hein, il me semble, avec ce qui s'est passé juste après l'USNAC. Enfin, on en reparlera un peu plus tard. Mais ouais, écoute, on va voir ce que ça va donner. Ça fait partie du football aussi moderne, de très haut niveau. Mais écoute, 22 personnes, ça me paraît énorme pour un staff, mais c'est la réalité. Tu l'as dit, Elton, si tu veux performer, il faut savoir bien s'entourer.
Il y en a beaucoup qui viennent de l'extérieur, pas forcément de la fédération.
Exactement. Et alors ça c'est une vraie nouveauté, tu as raison de le dire, Elton. Et l'autre chose, quand je vous dis que c'est pas terminé, c'est que la tendance depuis le début, là aussi on parle de tendance, c'est à ce que ce soit autour de 25 personnes dans ce staff. Et quand Zinedine Zidane, lors de sa conférence de presse de présentation, dit je reviendrai vers vous début septembre pour vous annoncer la totalité de mon staff, on comprend qu'il y a peut-être encore des postes qui peuvent être pourvus. Il y a quelques questions, je sais pas, par exemple sur le papier, peut-être que ce sera différent, mais on ne retrouve pas de préparateur physique. C'était le cas avec Didier Deschamps et la présence de Cyril Moine. Bon, on peut peut-être se douter que Grégory Dupont récupérera peut-être un peu ce poste-là, mais sur le papier, on n'en a pas. Il y a le rôle d'attaché de presse.
C'est quand même le prépa physique, hein, Dupont. Hein.
Voilà, c'est ce que je pense aussi. Ouais. J'en fais la même déduction que toi. Donc ce sera. Voilà, c'est peut-être juste une histoire de statut. C'est peut-être là aussi que ça méritera des précisions de Zidane. Mais il y a le rôle d'attaché de presse. Il y a la cellule data, on en parlait. Est-ce qu'il y aura d'autres personnes présentes, je sais pas, dans une autre cellule vidéo ou non. Donc on n'est pas au bout de la totalité de ce staff-là. En effet, ça représente un coût très important et ça, la fédération le sait depuis le début. Et évidemment, qu'au vu de la conjoncture et des difficultés financières que peuvent rencontrer la fédération, c'est assez particulier. Mais c'est une première liste importante, mais attention, elle n'est pas terminée.
Arthur, un mot sur le nombre, parce que Elton trouve ça très bien. C'est vrai que ça tranche totalement avec Didier Deschamps, qui était en staff très réduit. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec une armada au service des Bleus.
Je me mets à la place d'Elton et je pense qu'il dit ça, il va me le confirmer, parce que c'est très spécialisé.
Exactement.
Je vous donne un exemple. Marc Rétali, qui est pédicure podologue. Bon, jusque là, ces dernières années, on n'avait pas de pédicure podologue.
Alors, à voir s'il sera là à plein temps aussi.
Dans le staff de l'équipe de France.
Est-ce que dans sa fonction, par exemple, le podologue est là à plein temps, ou est-ce qu'il vient une ou deux fois, parce que c'est quand même un peu différent aussi.
Pour qu'il soit annoncé dans le communiqué de la Fédération française de football, c'est qu'il va avoir.
D'accord. Bah écoute, les Bleus ont des super
contrats. Fédération française de football.
Mais il sera présent pendant les.
Oui, je m'en doute. Et pendant les rassemblements.
Les rassemblements des Bleus.
Là, par exemple, on se retrouve avec 4 kinésithérapeutes. Jusque-là, on en avait, 3.
Arthur, je te coupe parce que priorité au direct, tu restes avec nous, évidemment. Mais vous savez, on vit les championnats d'Europe d'athlétisme à Birmingham avec Aurélien Tirsain et Teddy Tomgo. Messieurs, Marie-Julie Bonin, au saut à la perche, ça se joue maintenant.
Ouais, son dernier essai à 4,60 et ça passe. Là, ça fait du bien. Tu applaudis, Teddy, parce que c'est notre plus belle chance de médaille. Et elle avait manqué ses deux premières barres à 4,60 m.
Ouais, elle nous a fait une grosse frayeur là sur les deux premiers ratés, surtout sur le deuxième, parce qu'en fait, elle ne pique même pas. Donc là, ça a l'air de se remettre en place. Elle a pris une perche assez dure. On a eu chaud.
On a tapé avec la cuisse sur la barre.
Quand je dis dur, j'ai l'impression qu'il faudrait prendre encore.
C'est resté sur les taquettes. Imagine une carrière et une médaille, un palmarès, ça peut se jouer à ça. Donc ça passe pour Marie-Julie Bonin qui va continuer sa route avec une barre à 4,70 et Margot Chevrier qui connaît sa première sélection depuis 2 ans et demi, qui s'était explosé la cheville, fracture ouverte en 2024, a réussi 4,60. Donc elle est toujours en route, en course pour une médaille, Karine.
Merci beaucoup. Le soulagement sur le visage de Marie-Julie Bonin. On revient vous voir évidemment un petit peu plus tard. Messieurs, pardon Arthur. Je t'ai coupé mes priorités au direct. On est avec toi.
Oui, alors pour parler de cette spécialisation dont je pense parler Elton, on peut aussi ajouter pour terminer, bon, on parlait de Mohamed Sanadji qui récupère le statut de logistique sécurité. On a un agent de sécurité aussi qui est précisé. Ça aussi, c'est totalement nouveau. Il s'appelle Mustapha Ralef. Lui récupère ce statut-là. Bon, jusque-là, il y avait des agents de sécurité, mais pas nommés en tant que tels dans un communiqué de la Fédération française de football. Donc ça aussi, c'est un petit peu nouveau.
Merci beaucoup Arthur, on a fait le point avec toi, un point complet, on a tout dit.
On n'a rien oublié.
Magnifique, et en tout cas vous pouvez retrouver toutes les explications sur ce staff de 22 personnes sur rmcsport.fr, un papier signé Arthur et Valentin Jamin. Comment Zidane a choisi son staff, vous avez évidemment toutes les informations. Belle soirée à toi Arthur, et on
salut
a Arthur.
Ciao. Salut
François au 32-16 sur RMC. Bonsoir François. François. Alors François, c'est pas un auditeur lambda, c'est un homme qui a un parcours particulier. J'espère qu'on va le retrouver parce qu'il connaît certaines personnes du staff de Zinedine Zidane, justement. Il a des choses à nous dire, mais on aimerait l'entendre, surtout parce que pour l'instant, la connexion a priori a quelques difficultés. François, est-ce que tu es avec nous? Alors François, il connaît Farid Tabet, mais visiblement François a un petit souci de connexion. Écoutez, je vous propose d'essayer de retrouver François dans quelques instants. On sera également avec Alexandre Plumet qui va tout nous dire de sa dernière rencontre avec Fabien Barthez. Il l'avait interviewé en longueur pour son podcast. On est ensemble jusqu'à minuit en direct sur RMC. Ne bougez pas, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Karine Galli. On est ensemble en direct sur RMC jusqu'à minuit avec Maxime Chano, avec Elton Mokolo, avec vous au 32-16, mais aussi sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Et on revient évidemment sur le staff des Bleus qui a été communiqué aujourd'hui. ZZ s'est entouré de 22 personnes et le staff n'est pas complet. Il y aura encore des notes des gens qui seront divulgués d'ici le mois de septembre. On rappelle, le premier match c'est le 25 septembre et ça sera en Turquie, des matchs qui compteront pour la Ligue des Nations. Nous sommes avec François. On espère que ça va marcher cette fois-ci au 32-16 sur RMC. Bonsoir François. François.
François, il va pas
passer. Décidément, ça va pas le faire avec François. Tant pis. François, donc, voulait nous parler de Farid Tabé, qui est dans le staff de Didier Deschamps, qui a été notamment l'adjoint de David Bétoni sur le banc du club africain en Tunisie. Et Farid Tabé va être assistant coach analyse data vidéo. On verra si on retrouve François. On a tout tenté. Pour l'instant, ça ne marche pas. On va accueillir Alexandre Plumet, qui est aux manettes du podcast La Voix des Gardiens, un podcast consacré au poste spécifique de gardien de but. Et ce soir, Alex, qui est journaliste, est notre invité. Bonsoir Alex. Bon, a priori, il n'y a rien qui marche ce soir.
On va parler, sinon nous, on est là pour ça.
On sera 4-3 ce soir.
Voilà, il y a un petit souci avec les invités. On espère que ça va être réglé dans quelques minutes, messieurs. Alexandre Plumet, qui a eu le bonheur d'interviewer en longueur Fabien Barthez, c'était il y a à peu près un an, et il va tout nous dire de cette rencontre avec Fabien Barthez, qui est très rare dans les médias, et qui lui a confié, évidemment, sa vision du poste de gardien de but actuellement, et qui parlait notamment des gardiens qui sont en équipe de France aujourd'hui.
Alors surpris de sa nomination, non, mais je suis surpris de le revoir venir aux affaires, lui qui a quand même été absent pendant un bout de temps du football actuel. Je me rappelle d'ailleurs d'une interview, on en parlera un peu plus tard, Karine, où est-ce que Fabien Barthez critiquait un petit peu l'évolution du poste du gardien de but, lui qui a quand même beaucoup basé sa carrière sur un petit peu la chance, entre guillemets. Je me souviens quand il parlait de son rôle en tant que dernier rempart, entre guillemets, il disait que ça marchait beaucoup à l'instinct, beaucoup à la chance. Donc c'est vrai que dans un football où tout est prévu, tout est étudié, entre
beaucoup
guillemets,
plus scientifique, en fait.
Qui est beaucoup plus scientifique, exactement, avoir un Fabien Barthez qui a en l'occurrence, attention, je dirais pas que ce n'est pas un scientifique. Bon, on sait très bien que c'est peut-être pas forcément le plus grand intellectuel en termes de football. Attention, je ne critique pas la personne ni même le personnage, mais c'est vrai qu'en règle générale, la manière dont il parlait sur le poste et l'évolution du gardien de but me fait dire que est-ce que Barthez a évolué par rapport à sa mentalité sur le football actuel, en l'occurrence ce poste-là, ou est-ce qu'il va revenir à quelque chose de beaucoup plus pragmatique, comme c'était le cas il y a une vingtaine d'années lorsque lui était joueur. Voilà, j'attends de voir ce que ça va donner. J'ai du mal à croire et à voir Barthez aller voir Marc Maignan en disant écoute, tu te prends pas la tête, t'essaies de dégager le ballon, alors que on imagine un Zinedine Zidane qui va vouloir repartir aussi de derrière, comme ça se fait actuellement dans le football moderne. J'ai envie de voir un petit peu l'évolution de Fabien Barthez en tant qu'entraîneur des gardiens, parce que c'est vrai que le football a évolué, et comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est vrai que c'est un gardien, c'est un personnage qui a été vraiment absent du football professionnel pendant un certain
temps.
Donc
on rappelle quand même,
évolution.
Par rapport à ça, que Fabien Barthez succède à Franck Raviot, qu'il a été champion du monde, champion d'Europe, 87 sélections. Il avait déjà travaillé comme consultant pour l'équipe de France.
Avec Laurent Blanc.
Sous les mandats de Raymond Domenech et de Laurent Blanc. Il n'avait pas été conservé sous l'ère Deschamps. Il avait également brièvement intégré le staff technique de son ancien club, le TFC, donc Toulouse, de 2020 à 2021. Et Alexandre nous le dira, mais en tout cas, Fabien Barthez est un homme qui suit vraiment encore le football et qui n'est pas du tout déconnecté, parce que ils en ont parlé l'an dernier, notamment de certains matchs, de certains arrêts, etc. Donc c'est pas quelqu'un qui s'est éloigné du football. Ça arrive quand on est ancien professionnel de déconnecter.
Il a quand même pas travaillé dans un staff pendant X années.
Non, il a pas parlé dans un staff.
Être consultant, être entraîneur, c'est deux choses complètement différentes. On l'a vu dans le paysage médiatique. En effet, parfois il est apparu, mais entre être sur un banc de touche et être au contact des gardiens de but tous les jours pendant X années, c'est différent qu'être derrière un bureau ou derrière un...
Oui, non, mais ce que je dis, c'est qu'en fait, il continue de suivre le football avec assiduité. Mais attends, il y a plein d'anciens joueurs qui, par exemple, ne regardent pas le foot avec assiduité, qu'on donne pas.
Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a deux enjeux qui, pour moi, sont immédiats. C'est un, Fabien Barthez, par rapport à tout ce qu'on a dit, est-ce qu'il sera en mesure d'endosser ce rôle classique d'entraîneur des gardiens, ce qui serait nouveau pour lui en ce qui concerne l'équipe de France, et deux, récupérer la meilleure version de Mike Maignan sur le moyen long terme, et même sur le court terme, parce que Mike Maignan, par rapport à Coupe du Monde 2026, ça n'a pas été forcément l'une des satisfactions.
Mais ça, c'est quoi le problème, Elton? Le problème de Mike Maignan, c'est qu'il n'y a absolument pas de concurrence. Tant qu'il n'y aura pas de concurrence à ce poste-là, Mike Maignan, on aura eu du mal à avoir le meilleur de Mike Maignan.
On sait que la relation avec son entraîneur des gardiens est primordiale.
Okay.
On l'a vu du côté de l'AC Milan. Ouais. Et moi, je pense que ça peut être un enjeu qui peut être très important.
Une chose est sûre, c'est que quand tu t'appelles Fabien Barthez, au même titre que quand tu t'appelles Deschamps ou Zidane, t'as une légitimité lorsque tu parles aux joueurs qui sont de cette génération-là. Maintenant, Mike Maignan, pour moi, la grosse problématique, c'est le manque de concurrence, on l'a dit, avec un Lucas Chevalier qui a complètement lâché. Et puis derrière, c'est vrai que Samba, Risser, ben, est-ce que c'est au niveau de Mike Maignan? Je pense pas. Donc c'est aussi ça, et la problématique.
Ça, aussi,
et peut-être le gros chantier de Zidane et de Barthez, c'est de trouver un successeur ou en tout cas un numéro 2 qui pourrait venir challenger un petit peu Mike Maignan de manière à retrouver le Mike Maignan qu'on voit par exemple
au Milan. Si je vais dans ton sens, en tant qu'entraîneur des gardiens, tu as le devoir de challenger notamment Mike Maignan pour trouver la meilleure version à travers une émulation interne. Là, il se trouve que tu as du Risser, tes Chevaliers n'étaient pas là, tu as encore Brice Samba. Et donc voilà, sur le cycle 2026-2028 à minima, c'est ce qu'il doit faire.
On rappelle donc que Fabien Barthez va être dans le staff de Zinedine Zidane, que c'est un choix évidemment réfléchi, ils sont restés en contact pendant de longues années. Zinedine Zidane veut aussi qu'on retrouve ce qu'est Fabien Barthez. Il va pas se transformer, Fabien Barthez, il l'a expliqué dans le podcast et on espère avoir Alexandre Plumet dans quelques minutes, mais lui, ce qu'il regrettait, c'est finalement d'avoir des gardiens qui étaient extrêmement formatés. Lui, il veut aussi qu'il y ait quelque chose qui soit naturel, qui soit identifiable pour chaque gardien et qu'il n'y ait pas un moule. Et ça, c'est une problématique aussi, c'est que lui, par exemple, il te le dit, il captait des ballons, c'était pas le plus grand des gardiens, mais il a été numéro 1 mondial.
Différents, les frappes sont beaucoup plus fortes maintenant. Mais tu le vois, si tous les gardiens ne captent pas les ballons, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, excuse-moi Elton, je me permets juste de dire une chose. J'entends ce que tu veux dire, que Zidane a envie de ramener un entraîneur qui va reformater entre guillemets Mike Maignan.
Non, j'ai pas dit ça.
Non, mais façon de parler, c'est-à-dire qu'en tout cas, il va
peut-être
reformater, c'est pas le bon terme, en tout cas, qui va redonner une directive différente à Mike Maignan, parce qu'il a envie de retrouver peut-être quelque chose de différent en tant que poste de gardien de but. Mais il y a une réalité, c'est qu'en équipe de France, il va très peu en équipe nationale. Donc en fait, c'est pas là qu'il faut changer. Si tu veux changer un gardien de but, il faut le changer à la source, et c'est en club et pas en équipe nationale. Donc Barthez,
pour le coup, je serais plus nuancé.
Ah non, mais c'est clair, je peux te le dire. Quand tu arrives en équipe nationale, Elton, t'as à peine 4-5-6 jours.
Bah là, pour le coup, ils auront 3 semaines.
Et là, c'est la chance de Zidane, c'est qu'en effet, pour son premier rassemblement, il va avoir 3 semaines. Mais tu changes pas quelqu'un, un joueur en 3 semaines, sachant qu'en 3 semaines, t'as des matchs, t'as des avant-matchs, t'as des après-matchs. Donc techniquement, c'est pas 21 entraînements que tu vas avoir, c'est beaucoup moins. Donc arrêtez de penser, en tout cas, que Barthez va reformater ou
rechanger. Vie,
façon de parler, tu m'as compris.
En tout cas, va redonner une
directive différente à Maignan, parce que la réalité, c'est qu'on verra exactement le même Mike Maignan qu'avant et après l'arrivée de Barthez. C'est légitime, c'est normal. Barthez ne changera pas Mike Maignan avec le peu de temps qu'il va avoir.
Personne n'a dit ça, en fait.
Pas forcément le changer, mais le rendre le plus compétitif possible. C'est sa mission. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est tout ce que tu as dit par rapport à Fabien Barthez. Ça se traduit comment dans une logique où tu vas devoir jouer tous les trois jours et tu as une double logique. Tu joues tous les trois jours et pendant deux mois tu les revois plus, les joueurs. Donc ça, pour maintenir le lien, continuer de progresser, c'est pas forcément la chose la plus évidente.
Par exemple, il disait qu'il aimait l'audace chez les gardiens. Il a aussi notamment parlé de Neuer. Neuer qui était un modèle pour lui et dans les meilleurs. Bon, évidemment, on sera tous d'accord. Il parle également de Thibaut Courtois qui faisait et qui continue à faire des merveilles. Est-ce que Mike Maignan, selon vous, il a aussi des axes quand même où il peut progresser? Parce que bloquer des ballons, c'est pas que une vision des années 2000. Il y a des gardiens plus ou moins qui bloquent des ballons. Et même quand on est avec Lionel Charbonnier tous les week-ends sur RMC, il y a des ballons qui peuvent être captés et qui permettraient finalement à l'équipe de reprendre un petit peu son souffle, de se repositionner, etc. Et le gardien, très souvent, choisit l'option soit du corner, soit de redégager et donc finalement de pas stopper le jeu.
Non, mais je pense qu'aussi il y a une logique. Si les gardiens ne captent de moins en moins les ballons, c'est que les frappes sont de plus en plus fortes, c'est que les ballons sont aussi différents qu'à l'époque de Fabien Barthez. Sinon, la réalité, c'est qu'évidemment qu'un gardien devrait garder le ballon. Maintenant, la question et le débat est tel que, est-ce que l'on parle sur l'évolution, en tout cas la manière dont Mike Maignan peut changer en équipe de France ou de manière générale? Parce que de manière générale, je suis d'accord avec toi, il a un axe d'amélioration sur beaucoup de points. Maintenant, en équipe de France, n'oublions pas que les entraîneurs ne servent quasiment à rien.
Ils ne servent à rien, je te le dis, Elton.
J'ai fait partie d'une équipe nationale, j'ai fait 75 matchs. Quand tu arrives en équipe nationale, ce que te dit ton adjoint ou ton deuxième ou ton troisième entraîneur, t'en as rien à faire, t'as pas le temps.
Donc c'est un sas de vacances.
Mais c'est différent que Zidane mette en place une tactique, une culture de l'équipe. Je suis d'accord avec toi, mais l'évolution de tes joueurs ne passe pas en équipe nationale.
Il y a 5 minutes, on a parlé de l'importance notamment du staff élargi de Zinedine Zidane. C'est à partir de ce postulat avec ce staff élargi, ils n'arrivent pas justement de manière individualisée.
Mais c'est parce que c'est la culture de la gagne, c'est différent.
Il doit faire progresser les joueurs.
Mais tu ne peux pas progresser en une semaine, 10 jours, ce n'est pas possible.
Mais dans ce cas-là, tu n'as pas de staff en équipe nationale.
Ça n'a rien à voir. Évidemment que tu as besoin d'un mec qui mette en place les plots, tu as besoin d'un mec qui mette en place les corners. Je suis en train de vous parler de l'évolution de joueurs, l'évolution individuelle. Elle n'est pas en équipe nationale. Que tu puisses faire évoluer. Mais non, mais Elton, que tu fasses évoluer une équipe. Je te parle vraiment d'une équipe, d'accord? Une culture de la manière dont tu as envie de jouer, d'un bloc équipe, d'animation offensive, d'animation défensive. Donc on parle vraiment d'une globalité. Je suis d'accord, l'entraîneur et le staff est là pour ça. Mais que tu me parles d'évolution individuelle en équipe nationale, alors que lorsque tu arrives en équipe nationale, tu as à peine 4 ou 5 jours pour te mettre au diapason, ce n'est pas possible.
Pas seulement évolution individuelle, évolution collective, notamment sur la partie relance, parce que Mike Maignan a été challengé là-dessus sur la Coupe du Monde, sur sa capacité justement à être la première rampe de lancement de l'équipe de France. Ça aussi, c'est le rôle d'un entraîneur des gardiens, justement, d'amener justement ce joueur à être beaucoup plus performant.
Messieurs, on va retourner tout de suite à Birmingham. Priorité au direct. Vous savez qu'on vit les championnats d'athlétisme, les championnats d'Europe avec Aurélien Tirsin et Teddy Tamgo. Messieurs, le 800 mètres homme, la finale va démarrer dans quelques instants.
Ouais, la grande finale. Alors on attendait Gabriel Tual côté français, mais il s'est un petit peu mangé en demi. Et finalement c'est Corentin Leclésio qui n'a pas de grande référence au niveau international, mais qui a battu son record personnel, Teddy, en 1:43.90, qui sait courir vite face à lui, notamment l'Espagnol Mohamed Attaoui, couloir numéro 2, Max Bergin le Britannique, le très mal nommé Mark English l'Irlandais, couloir numéro 6, qui a battu le record des championnats. Il y aura Ben Pattison également. Mais il y a pourquoi pas une petite place sur le podium à aller chercher, Teddy.
Une course tactique, donc on s'attend à tout. Maintenant, espérons que la tactique fit parfaitement avec Leclésio.
Le coup de pistolet, le départ de ces deux tours de piste, ça va courir vite évidemment, comme d'habitude en ce moment sur le 800 masculin en pleine effervescence. 1:43, 1:44 et Corentin Leclésio qui est pour l'instant un tout petit peu décroché, mais c'est le premier virage évidemment. Pendant ce temps, il y a le concours de la perche et on a le temps d'en dire un tout petit mot. Marie-Julie Bonin qui a encore manqué sa première tentative à 4,70 m, elle n'y arrive pas ce soir.
Ah, ça devient compliqué, je ne sais pas si c'est un surplus d'énergie parce que ça fait comment dirais-je, elle a continué sa course 2-3 fois dans ce concours et puis donc ça veut dire que les marques ne sont pas réglées, ne sont pas fixées. Donc à voir si c'est un excès d'énergie. Quelle que soit la cause, en fait, j'aimerais qu'elle règle ça rapidement, puisqu'à 4,70 m, je pense qu'on va commencer à dessiner le podium.
Eh oui, pour l'instant, Vilma Murto, la Finlandaise, et Moser, la Suissesse, sont passés. Le dernier tour du 800 masculin, Corentin Leclésio, 7e pour l'instant, un peu enfermé à l'intérieur. Il y a Bludek, le Croate, devant Mohamed Attaoui et Mark English. Attaoui, English, probablement les deux favoris de cette finale du 800 mètres. Et là, on est dans l'avant-derrière ligne droite. Corentin Leclésio, pour l'instant, il est en queue de peloton.
Ça va être compliqué. On voit déjà, comment dirais-je, son expression corporelle qui semble tirer, en fait.
Ah oui, il a pas l'air en forme.
Voilà, ça accélère, il n'arrive pas à tenir.
1:43.90 en demi-finale, dommage. Ça lui a fusillé les pattes. On a quand même une médaille d'argent ce soir avec Alice Fino sur le 3000 mètres steeple. Mais Bludek, le Croate, est pour l'instant en tête devant Mark English, Mohamed Attaoui sur l'extérieur qui fait l'effort. Corentin Leclésio qui donne tout, qui ne lâche rien. Il est dernier, mais il colle au train. Et Mark English va passer devant l'Irlandais, recordman des championnats et champion d'Europe. C'est l'ennemi anglais ici à Birmingham devant le Croate Bludek et l'Espagnol Mohamed Attaoui, un médaillé mondial. Mais c'est bien Mark English qui montre les muscles, qui a été le meilleur. Et malheureusement, notre Français Corentin Leclésio qui termine dernier de cette finale du 800 mètres. Teddy, il a tout donné en demi-finale.
Il n'y avait plus d'énergie. Je pense que sa course en demi-finale a été pour lui une finale en fait avant l'heure, et puis que voilà, même s'il a tout donné, on l'a vu sur la dernière ligne droite où il n'a rien lâché, et j'aime justement cette mentalité. Et malheureusement, à un moment donné, quand le corps ne peut plus, il peut plus.
Et on va attendre la suite de la perche avec Margot Chevrier, absente depuis 2 ans et demi. Elle a passé 4,60 pour l'instant. Si elle passait 4,70, ce serait un peu de la folie pure, et on verrait, et elle pourrait faire une médaille. Alors là, on n'y est pas encore, mais ça pourrait être exceptionnel. Et Karine, on aura aussi la finale du 200 mètres féminin avec Jemima Joseph à 22h50.
On est là avec vous, messieurs, en espérant vivre des émotions. On se retrouve dans quelques minutes. On est sur RMC en direct jusqu'à minuit. Dans quelques instants, on espère avoir Alexandre Plumet. Nos petits soucis techniques sont résolus, on l'espère. En tout cas, on va parler toujours du staff de Zinedine Zidane et notamment du rôle de Fabien Barthez qui rejoint le staff des Bleus. À tout de suite sur RMC.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Karine Galli.
22h37, vous êtes sur RMC en direct avec Elton Mokolo, avec Maxime Chano. Zinedine Zidane a communiqué son staff pour commencer son aventure en bleu. On le rappelle, il y a 22 noms qui ont été officialisés aujourd'hui et le staff n'est pas complet. Il y aura encore d'autres personnes qui vont compléter ce staff et notamment, il y a un nom ô combien célèbre, c'est Fabien Barthez, entraîneur des gardiens de but. Et Arthur nous l'a dit un petit peu plus tôt, Arthur Perrault, il n'y a pas de problème par rapport à son diplôme. Il est actuellement en train de passer son BEF. C'est une formation reconnue comme une licence A par l'UEFA. Donc, il est dans les clous pour intégrer le staff. Parce que, bien évidemment, pour être en équipe de France, il faut avoir les diplômes. Sinon, il y a des amendes, comme on le voit dans les clubs. Et la FFF, ça douille pas mal quand il y a des amendes. On le sait bien. Alexandre Plumet, aux manettes du podcast de La Voix des Gardiens. Un podcast qui est consacré donc au poste de gardien de but. Et notre invité, Alexandre, journaliste, qui a eu le bonheur de rencontrer Fabien Barthez pendant une après-midi. C'était il y a tout juste un an. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Karine, bonsoir à tous.
Bonsoir Alexandre.
Alex, toi, tu as une passion notamment, c'est le poste de gardien de but. C'est dans ce cadre-là que Fabien Barthez a accepté de se confier, parce qu'on sait qu'il est très rare dans les médias. Il t'a reçu chez lui. Et avant tout, tu voulais rappeler, parce que c'est des choses qu'on entend un petit peu depuis que Fabien Barthez a été officialisé, même avant quand son nom bruissait, c'est un ancien gardien qui continue de regarder le foot, qui n'est pas du tout éloigné de ce sport. Contrairement à ce qu'on peut lire parfois, il regarde beaucoup de matchs, il observe les prestations des gardiens, il analyse, il n'a pas décroché de son ancien monde.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est vrai que l'année dernière, quand on s'est rencontrés, bah, c'était un peu casse pour revenir sur sa carrière dans sa globalité, mais très vite, les sujets d'actualité se sont greffés dans la discussion, même avant de commencer l'enregistrement. Et en fait, oui, c'est pas parce qu'on voit et qu'on n'entend pas Fabien Barthez dans les médias très souvent qu'il ne suit pas et la Ligue 1 et les championnats étrangers. Il regarde beaucoup de matchs, il les regarde avec son œil de gardien de but, mais aussi en prenant en compte l'évolution du jeu aujourd'hui, le fait qu'on demande plus aux gardiens. Donc oui, il continue à regarder les matchs et avec un œil de spécialiste.
Alexandre, un mot par rapport à tout ce que vous vous êtes dit pendant cette discussion. On a vu qu'il poussait un petit peu des coups de gueule parce que il regrettait que les gardiens soient tous faits dans le même moule et il disait ben même moi aujourd'hui je ne pourrais pas être professionnel peut-être parce que c'est pas le plus grand, parce que c'est pas le plus académique, alors qu'il a été numéro un mondial, qu'il a été un immense gardien. Lui, il aime l'audace chez les gardiens, il a envie que les gardiens ne soient pas tous des copier-coller.
C'est tout à fait ça. Pour lui, le gardien, c'est un poste où le gardien doit être joueur, où il doit être actif et non pas être passif. Et quand on voit aujourd'hui beaucoup de gardiens, selon lui, ils se mettent en croix ou ils sont passifs et ils subissent les actions. Parce que les gardiens font la croix, parce que tous les gardiens font plus d'1m90 maintenant. C'est quasiment un critère obligatoire dans les centres de formation. Fabien Barthez, c'est 1m83. Il dit que oui, voilà, il pense que lui, à son époque, aujourd'hui, à son époque, il a pu devenir gardien. Aujourd'hui, ça aurait été plus compliqué parce qu'à 1m83, il n'aurait sûrement pas passé les premiers critères des centres de formation pour intégrer et rester dans un centre de formation. Donc, c'est un peu son cheval de bataille quand il regarde les matchs, quand il regarde l'évolution aujourd'hui du poste. Il n'aime pas trop ce qu'il voit de la grande majorité des gardiens. Alors, il adore certains gardiens, mais cette uniformisation et ces robots, comme il les décrit, ça ne lui plaît pas trop.
Et du coup, là on s'avance, ça peut avoir aussi une influence notamment sur son avis sur l'identité des trois gardiens de l'équipe de France au nom de cette non-uniformisation.
Alors j'ai pas entendu le début de la question, juste entendu la fin. Après, il faudra voir aussi le rôle qu'il va avoir dans le staff. Avec Zinedine Zidane, est-ce que Zinedine Zidane va avoir la main sur le choix des trois gardiens? Est-ce que c'est Fabien Barthez qui va soumettre trois noms et Zinedine Zidane va valider? Est-ce que c'est lui qui aura la main totale pour donner les trois noms et que Zinedine Zidane va déléguer ce poste? Ça c'est une organisation de staff, mais comme on peut le trouver en Ligue 1 où certains entraîneurs ne fonctionnent pas forcément de la même manière avec leur entraîneur des gardiens.
Mais on l'a vu, donc il n'était pas forcément en tant qu'entraîneur des gardiens pendant très longtemps. C'était une évolution naturelle de le retrouver en équipe de France. Après, je pose la question à vous, mais vous en pensez quoi?
Alors, l'évolution naturelle, pour être franc, à la toute fin de l'épisode, je lui demande dans une petite partie qui s'appelle le face-à-face avec des questions simples et des réponses rapides, je lui demande si le voir dans un staff en tant que consultant ou entraîneur des gardiens, c'est envisageable ou pas du tout possible. Il dit que c'est compliqué parce qu'il n'a pas forcément la philosophie des entraîneurs de gardiens bien aujourd'hui et de la doctrine qu'on va imposer aux gardiens.
Bien sûr, on se pose justement la question.
Le fait que ce soit en équipe de France, que ce soit sur des périodes très courtes,
Non, je disais, on se posait justement la question par rapport à l'évolution de la mentalité de Fabien Barthez, hein, lui qui a joué il y a une vingtaine d'années, on le rappelle. C'est vrai que c'est pas forcément un gardien très moderne, en tout cas lorsqu'il jouait. Donc le voir aujourd'hui entraîneur des gardiens avec des gardiens qui ont évidemment évolué, en tout cas le poste a évolué. Tu l'as dit un peu plus tôt lorsque tu l'as interviewé. Voilà, je suis curieux de savoir quel Fabien Barthez on va retrouver en tant qu'entraîneur des gardiens. Maintenant, la question aussi que j'ai, c'est lorsque tu lui as parlé il y a un an, est-ce que tu as parlé de l'équipe de France, est-ce qu'il éventuellement il aurait été intéressé, parce que bon, évidemment aujourd'hui il suit Zinedine Zidane dans cette aventure. Est-ce que tu penses que c'était dans le coin de sa tête? Est-ce qu'en tout cas c'était un projet pour Fabien Barthez de rejoindre le staff de l'équipe de France à terme?
Ben après, il faut se remettre dans le contexte de juin 2025 quand on se voit. À l'époque, Didier Deschamps, on sait qu'il va pas continuer, mais il y a encore, bon, on se doute au moment-là que ça pourrait être Zinedine Zidane parce que c'est le seul nom qui ressort. Mais la rumeur Fabien Barthez, personne n'en parle au moment-là et c'est même pas quelque chose qui traverse l'esprit au moment-là parce que il n'était pas dans les petits papiers comme on a pu le voir ces 5-6 derniers mois. Donc non, après il avait envie de faire passer des messages. Ça, c'est l'impression que j'ai eue par rapport à ce qu'il voyait, par rapport à ce qu'il chagrinait dans les gardiens actuels sur la croix, sur le jeu au pied, parce que lui c'est quand même un gardien qui était très novateur à la fin des années 90. C'est un des premiers gardiens qui avait un gros jeu au pied, un gros pied gauche qui était décisif avec son pied gauche sur certaines relances et qui aurait pu jouer dans le champ, peut-être pas en première division, mais qui aurait pu jouer dans le champ. Donc il a cette appétence pour le jeu, il aime le gardien joueur avec le jeu au pied. Après, de là à savoir si l'année dernière, quand on s'est vu, il avait déjà ça en tête, je sais même pas si Zinedine Zidane lui avait déjà proposé au moment-là.
Alexandre Plumet, qui est aux manettes donc du podcast La Voix des Gardiens, est notre invité. Il a eu le bonheur de passer une après-midi avec Fabien Barthez l'an dernier. Alex, un mot sur Mac Maignan. Qu'est-ce qu'il t'a dit sur le gardien du Milan AC et numéro 1 des Bleus?
Il l'aimait beaucoup. Quand je lui ai demandé les 5 gardiens qu'il appréciait aujourd'hui, bon, il y a évidemment eu Manuel Neuer, qu'il considère comme le meilleur gardien de tous les temps. Il aime aussi Thibaut Courtois dans sa façon de d'être décisif. Voilà, c'est surtout ça. Sur Thibaut Courtois, c'est pas forcément d'avoir beaucoup de ballons par match. Au Real, il n'en a pas beaucoup, mais c'est décisif. Et Mike Maignan, ça ressortait dans les gardiens qu'il aimait bien avec David Raya et Lucas Chevalier. Alors, pour le remettre dans le contexte de Lucas Chevalier l'année dernière, il sortait de cette saison à Lille. Et donc, ce Mike Maignan, il l'aime beaucoup parce qu'il n'a pas trop ce côté scolaire. Pour lui, il arrive à avoir son style à lui, son style qui n'est pas forcément mis dans les moules comme on peut voir en France, comme on peut voir dans certains pays, comme le style allemand, par exemple, et qu'il a sa propre personnalité. Et c'est ce qu'il aime beaucoup chez lui, c'est qu'il a une personnalité et qu'il dégage quelque chose.
Et c'est quelque chose que vous venez d'évoquer, cette singularité des gardiens, c'est quelque chose qu'on a déjà vu à travers d'autres podcasts, si on sort un peu de l'interview avec Fabien Barthez, cette idée de singularité des gardiens.
Bah après, oui, chaque gardien, quand je viens à échanger avec, il arrive à ressortir quelque chose de particulier dans la façon d'approcher le poste et de juger les gardiens entre eux, même aujourd'hui des gardiens qui ont, entre guillemets, la cote en Ligue 1. Plusieurs spécialistes du poste trouvent qu'ils sont pas forcément, c'est pas forcément les meilleurs gardiens, mais parce qu'ils répondent aujourd'hui à des standards qu'ils trouvent qui sont à la mode et qu'ils ont la cote, sans forcément que ce soit les meilleurs gardiens aujourd'hui ou de Ligue 1 ou même au niveau de la Ligue des Champions.
C'est quoi les standards à la mode justement?
Alors, j'ai pas entendu. L'arrêt à la mode,
c'est ça? Les standards à la mode justement que vous mettez en avant.
Les standards à la mode, c'est ce qu'on a aujourd'hui dans les centres de formation. C'est qu'un gardien en dessous d'un mètre 90, pour lui, c'est difficile déjà d'entrer en centre de formation ou en tout cas d'y rester. Et après, c'est des gardiens qui vont être qui vont être grands, qui vont être, qui vont réussir à faire la croix, mais peut-être trop maintenant, on leur demande trop de faire la croix, ou en tout cas ils font trop la croix. C'est des gardiens qui vont jouer au pied, mais alors voilà, jouer au pied, il y a un grand nom entre jouer au pied, parce que ça peut être jouer au pied et dégager le ballon loin, c'est une façon de jouer au pied, mais il y a aussi maintenant des sorties de balles avec des prises de risque plus ou moins importantes. On le voit avec l'évolution du 6 mètres où on demande de plus en plus aux gardiens de jouer au pied. Donc voilà, ça c'est les standards, et aussi bah, le fait que le gardien soit grand, c'est aussi de s'imposer, mais les gardiens sont de plus en plus grands, mais ils s'imposent de moins en moins dans les airs. Donc c'est aussi des paradoxes de cette évolution du poste récemment, c'est que les gardiens sont de plus en plus grands, mais on a l'impression qu'ils sont de plus en plus en difficulté dans les buts, c'est-à-dire qu'ils captent moins les ballons et qu'ils sortent moins dans les airs.
Merci beaucoup Alexandre d'avoir été avec nous. On rappelle que tu es aux manettes d'un podcast passionnant qui s'appelle La Voix des Gardiens. Alors il y a évidemment des gardiens de but de football, mais il y a aussi des gardiens de hand comme Thierry Omeyer. Et il y a énormément de belles rencontres et c'est très intéressant. Donc j'invite tout le monde à aller découvrir ton podcast pour ceux qui ne le connaissent pas encore, La Voix des Gardiens. Et donc tu as eu le bonheur de rencontrer Fabien Barthez une après-midi. C'était il y a un an. Merci beaucoup Alex d'avoir été avec nous. À bientôt sur RMC ou ailleurs. On est ensemble sur la radio RMC jusqu'à minuit. Dans quelques instants, on va continuer évidemment de parler de l'actualité avec notamment Kvara, favori du Ballon d'Or. En tout cas, c'est Unai Emery, l'entraîneur d'Aston Villa, qui en a parlé hier après la Super Coupe. On parlera également du Mercato. Ça bouge sur la planète foot. On est ensemble jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC, l'After Foot.
Karine Galli. 22h50, vous êtes sur RMC, on est en direct jusqu'à minuit avec Maxime Chano, avec Elton Mokolo, avec vous sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424, mais aussi au 32-16 sur RMC, on vous attend. Il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de gens qui sont pas contents après Maxime, hein, parce que
tu avais un petit peu tendance à dire que
finalement, pendant les trêves internationales, les joueurs ne faisaient rien.
Maxime, tu vois, Maxime, bien placé pour le savoir, Elton et Karine, je peux vous dire, regarde, on va le faire très très rapidement, d'accord. En règle générale, tu joues ton match avec le club le samedi ou le dimanche, d'accord. Le match qui suit en équipe nationale est le jeudi. Donc, tu arrives lundi en équipe nationale, tu gères un petit peu les bobos, tu commences à t'entraîner le mardi. Mercredi, c'est la veille de match. Donc, tu sais bien que la veille de match, tu fous absolument rien. Jeudi, c'est le match. Le vendredi, c'est l'après-match. Et tu rejoues le dimanche. Rebelote. Donc, en fait, tu as une ou deux grosses séances dans la semaine. Et après, tu repars en club. Écoute, je peux te le dire une chose. Alors, certains vont dire les mauvaises langues. Le Luxembourg n'est pas la France, certes. Mais la planification d'une semaine est la même. La qualité est peut-être différente, mais la planification est la même. Et je peux te dire, tu fous absolument rien en équipe nationale.
Et t'oublies,
c'est les vacances.
T'oublies, non, Maxime, t'oublies un point important. Et quid des compétitions internationales?
Alors, c'est toi, différent. Mais il y en a une tous les deux. Il passe
50 jours, et pendant 50 jours, évidemment, qu'il travaille, il bosse.
Oui, mais t'as la prépa physique parce que tu dois remettre les joueurs. Mais bon, t'évolues pas, c'est différent, on parle de qualité intrinsèque.
Dans le film, tu m'as mis que la première partie.
Ouais, Moi, je veux aussi la deuxième partie, parce que ça dure 24 mois. Donc, c'est sûr que s'il y a une compétition et tu me parles de 50 jours, il faut aller jusqu'en finale. Et puis, t'imagines bien que tu gères aussi les efforts, la condition physique. Donc, t'es pas constamment sur des grosses séances de travail.
Je suis d'accord pour dire qu'on peut quand même travailler en sélection parce que moi, je me bats
très peu.
Moi, je me bats contre cette idée, on peut travailler parce que parfois, en équipe de France, notamment pour défendre Didier Deschamps, on nous expliquait qu'on ne pouvait pas travailler, ce qui est factuellement faux.
Non, c'est vrai, et je ne te parle même pas des soirées que tu as, les soirées officielles et les soirées officieuses, donc n'en parlons pas parce que ce n'est pas le moment d'en parler. Mais crois-moi, c'est plus les vacances qu'une semaine de travail quand en équipe nationale.
Bon, en tout cas, on rappelle quand même que, par exemple, avec De La Fuente, on a vu une équipe qui travaillait, qui progressait, une progression collective,
pas individuelle.
Les deux, individuel et collectif, rien à voir, mais bien sûr,
vous êtes sérieux ou pas? Tu peux progresser de manière collective parce que les animations offensives sont réglées, sont travaillées, mais t'es pas obligé de progresser de manière individuelle. T'as des mecs qui ont un plafond de verre, qui vont rester comme ça et qui se fondent dans un collectif qui fonctionne.
Après, voilà. C'est difficile à quantifier la progression individuelle, déjà.
Mais en tout cas, on espère que sous Zinedine Zidane, il y aura aussi des joueurs qui pourront progresser. Ou qui
auront une autre réalité par rapport à où ils étaient en équipe de France.
De toute façon, il y aura une nouveauté, évidemment, avec un staff de 22 noms, on rappelle, qui a été dévoilé aujourd'hui. Retour à Birmingham pour les championnats d'athlétisme. C'est le championnat d'Europe. On est avec Aurélien Tirsin et avec Teddy Tamgo. Messieurs, la finale du 200 mètres femmes va partir dans quelques secondes.
Et Teddy, c'est la seule représentante du sprint français. Il n'y a pas de garçon sur le 100 et le 200. Jemima Joseph. Et donc, en finale du 200 mètres femmes, couloir numéro 4, avec notamment, et malheureusement pour elle, la légende britannique Dina Asher-Smith, championne du monde en 2019, 6 fois médaillée européenne. Amy Hunt, la championne d'Europe du 100 mètres. Et l'Irlandaise Rasidat Adeleke. En deux mots, ses chances de podium.
Assez compliqué parce qu'il y a trois monstres devant Hunt, Dina Asher-Smith et Adeleke. Ça va être assez compliqué. Il faudra vraiment qu'elle explose son record, n'est-ce pas, pour espérer en fait rentrer, monter sur la boîte.
Il y a du monde ce soir dans le stade de Birmingham. C'est parti pour Jemima Joseph qui est à l'intérieur, qui va devoir faire son effort. Elle est pas si mal partie. Bon départ de la fusée de Kourou, la Guyanaise, mais ça va trop vite pour l'instant avec Dina Asher-Smith. Le duel avec Amy Hunt aura lieu et Amy Hunt, la championne d'Europe du 100 mètres, est en train d'attaquer la légende et elle va faire le doublé 100-200. Attention au retour de l'Irlandaise. Il n'y aura pas de podium pour la Française Amy Hunt. Le doublé 100-200 devant probablement Adeleke ou Asher-Smith. Il y aura peut-être une petite photo. C'est Adeleke, l'Irlandaise, je pense, médaillée déjà sur le 400, qui sera vice-championne d'Europe du 200 mètres. Et Dina Asher-Smith, qui est un peu vieillissante, entre gros guillemets, Teddy. Mais quelle légende, et qui va encore prendre une médaille européenne, Dina Asher-Smith en bronze.
Ah oui, elle a un tel potentiel, elle a couru tellement vite dans sa carrière qu'elle n'a même pas besoin d'être à son prime, en fait, pour récupérer des médailles au niveau européen. Elle en a des titres, elle les collectionne même, mais là, elle continue, en fait, elle ouvre sa collection, en fait, sa boîte à collection avec une nouvelle médaille d'argent. Donc, c'est une des reines du sprint. Au niveau européen, une des légendes même d'ailleurs.
Eh oui.
Et voilà, maintenant, dommage pour Jemima Joseph. Elle a tout donné, on voit cinquième vraiment qu'elle s'est battue, mais voilà, aujourd'hui le niveau était trop élevé pour elle.
Ouais, cinquième en 22-63, pas très loin de son record personnel. Et pendant ce temps, il y a encore le concours de la perche. On rappelle que Alice Finot a remporté la médaille d'argent sur 3000 mètres steep. Donc la France a empoché une cinquième médaille ce soir et donc probablement une sixième grâce à Marie-Julie Bonin qui pour l'instant est troisième du concours de la perche derrière Angelica Moser et derrière Vilma Murto. D'ailleurs, c'est validé.
C'est,
elle sera à minima en bronze puisque la Belge Eline Wekemans manque encore une fois un saut à 4,75. Alors Marie-Julie Bonin sera à minima en bronze derrière la Suisse Angelica Moser et la Finlandaise Vilma Murto. Mais ce n'est pas terminé. Margot Chevrier, quatrième ex aequo. Quatrième ex aequo, deux ans et demi après sa fracture ouverte. 4,60, c'est un résultat magnifique pour Margot Chevrier. On te tient au courant, Karine, quand Marie-Julie Bonin pourra empocher cette fameuse médaille.
Merci beaucoup, messieurs. On revient vous voir donc pour la perche et donc nouvelle médaille pour l'équipe de France, actée en tout cas. Et on a hâte de voir la suite de ce concours. Deux échecs. Il faut jamais renoncer, les gars.
Exactement.
François est-il avec nous au 32-16 sur RMC? François, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez?
Bonsoir. Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez?
Alors là, c'est exceptionnel. François, on est ravis de vous avoir au 32-16 sur RMC. Alors, François, vous connaissez Farid Tabé, qui est aujourd'hui donc assistant coach analyse data vidéo dans le staff de Zinedine Zidane. Et vous, vous l'avez connu comme entraîneur au Canet. Dites-nous tout.
Je l'ai eu plus de 10 ans au Canet Rocheville, en National 3. En fait, c'est un coach qui a accueilli David Bettoni à l'AS Cannes quand David Bettoni a basculé de sa carrière de joueur en entraîneur. Donc, c'est Farid Tabé qui l'a accueilli et qui l'a aidé dans ses premiers pas. Et ensuite, Farid Tabé a entraîné au Canet Rocheville, donc une National 3, et je l'ai eu pendant 10 ans. Et voilà, c'est un coach qui, tactiquement, je pense, est au-dessus du lot. C'est quelqu'un qui a le souci du détail, qui, à la mi-temps... avait une analyse de là où il fallait jouer, là où il fallait trouver la supériorité. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment pertinent dans ce qu'il fait. Et d'ailleurs, c'était son adjoint en Tunisie, l'adjoint de David Bettoni en Tunisie. Voilà, c'est des gens de confiance. Zidane, il a mis des gens de confiance, des gens qui se connaissent bien. Et voilà, Farid Tabé qui est un Marseillais et qui a toujours été proche de David Bettoni. Voilà, je pense que Zidane a besoin de mecs de confiance et il a mis des gens des gens performants.
En tout cas, son évolution est très belle, avec beaucoup d'humilité et de respect. Mais c'est vrai que de partir de Canet et de te retrouver en équipe de France, bravo, il n'y a que dans le football, je pense que tu peux voir ça.
Ouais, mais ça a été beaucoup de travail, je pense, de sa part, parce que déjà, quand il était avec nous au Canet, il nous disait qu'il analysait déjà des vidéos quand il les recevait du Real Madrid pour les matchs. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé un peu dans l'ombre et qui, comme je vous dis, c'est un entraîneur qui, à la mi-temps, il arrivait à se détacher et à nous dire, voilà, il y a une supériorité au milieu, jouez votre 3 contre 2 au milieu, ou alors insister, renverser sur les latéraux, jouez vos 2 contre 1. Enfin voilà, c'était pas le coach qui nous disait, allez, on le rentre dedans, des phrases bateau un peu qu'on peut entendre. Et moi, en plus, voilà, qui maintenant suis coach, j'ai pu beaucoup m'inspirer de ce qu'il a fait. Et je pense que c'est quelqu'un qui va porter sa patte à l'équipe de France, en tout cas.
C'est intéressant, cette capacité d'intervenir dans la mi-temps, quand on se souvient que le Real Madrid de Zinedine Zidane, c'est précisément sur les secondes périodes qu'ils arrivent à inverser la tendance, et aussi notamment la réalité d'une compétition internationale. On l'a encore vu sur la Coupe du Monde, où ça se décide globalement sur les secondes périodes.
Et je pense que c'est important, voilà, de savoir se détacher du match, entre guillemets, arriver à prendre du recul et comme tu disais, analyser là où on peut faire mal à l'adversaire, ou alors justement régler les soucis qu'on peut avoir tactiques, c'est primordial.
Ouais, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est vrai que le football moderne a évolué, et donc à la mi-temps de chaque match, t'as toujours l'analyste vidéo qui descend avec son ordinateur et qui vient brancher entre guillemets au mur du vestiaire pour nous montrer, en tout cas pour montrer aux joueurs ce qui n'a pas été bien fait, parce qu'évidemment quand t'es à la hauteur du terrain, quand t'es joueur, tu vois pas la même chose que lorsque tu regardes depuis les caméras. Et donc c'est vrai que c'est aussi une particularité du football moderne. Est-ce qu'on est beaucoup aidé grâce à la vidéo? Et c'est vrai qu'avoir un personnage comme lui dans un vestiaire, en tout cas dans un staff, c'est super utile
regard,
pour un joueur.
C'est un autre œil, c'est une autre perspective, et j'ai envie d'insister sur la perspective qui change beaucoup de choses. Et après, c'est vrai qu'il y a des hommes, enfin il y a des acteurs qui sont sur le terrain. Le fait d'être un peu plus au-dessus, ça permet d'avoir.
C'est pas le même angle, bien sûr. Ouais, tu vois les choses différentes.
T'as un autre rapport.
C'est clair, c'est quelque chose qu'il arrivait à faire déjà alors qu'il entraînait. C'est pas évident. Alors là, le fait d'être avec de la hauteur, avec un peu moins de pression, de dire les consignes en direct, je pense que voilà, il va être encore plus performant, et ça va être encore plus pertinent ce qu'il va dire. Et oui, je pense que ça va être un plus pour l'équipe.
C'est une autre forme d'autorité, dans le sens où tu es un peu détaché par rapport à ce qui se passe sur le terrain, sur l'aspect émotionnel.
D'ailleurs, souvent les 10 premières minutes, il disait pas grand-chose et il observait, il était beaucoup dans l'observation, justement pour analyser les faiblesses de l'équipe et là où il pouvait nous faire mal également.
Merci beaucoup François d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC pour bonne nous parler soirée. Donc de Farid Tabé, qui fait partie du staff de Zinedine Zidane. On vous rappelle les rendez-vous. À la mi-septembre, il y aura la première liste de Didier Deschamps, c'est fini. La première liste de ZZ, de Zinedine Zidane. Le premier match en Turquie, ça sera le 25 septembre. Puis, deuxième match également, ça sera à l'étranger, en Belgique, le 28 septembre. Les retrouver avec le peuple français, les supporters français, le 2 octobre, France-Italie, sacré clin d'œil quand même, on rappelle évidemment. Dernier match de Zinedine Zidane avec le maillot bleu, c'était la finale face à l'Italie. Et bien là, son premier match sur la terre hexagonale, ça sera un France-Italie au Stade de France. Match à guichet fermé, donc ne cherchez plus des places, c'est cuit. Et le 5 octobre, France-Belgique. Donc c'est un rassemblement de 3 semaines avec 4 matchs pour commencer.
Il n'est pas bizarrement bien foutu ce calendrier. Donc il y a 2 matchs de suite extérieur et 2 matchs de suite à domicile.
C'est ça.
Comme ça les voyages, c'est mieux, non?
Ok, ouais. Ça
en tout cas, ça sera un gros rassemblement, le premier de Zinedine Zidane, et vous le vivrez évidemment sur RMC. Dans quelques instants, on va parler du PSG, le PSG qui a gagné pour la deuxième fois la Super Coupe d'Europe. C'était hier face à Aston Villa. On va parler de Gvara, favori du Ballon d'Or, c'est Unai Emery qui nous le dit, mais aussi du Mercato, Ferran Torres, et le PSG, ça brûle. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'after foot.